Alors, il y a un mois, j'ai eu la chance de pouvoir vous apporter le premier message. Et avant de commencer, merci. Vas-y. Je voulais savoir, est-ce que vous vous souvenez de quoi j'ai parlé ? Merci. Aimez-vous les uns les autres. Après ? J'ai pas entendu. La Maslow, la pyramide de Maslow, mais dans quel but ? Dans quel but ? Voilà, les besoins psychologiques, les besoins spirituels et les besoins. Donc, on va pouvoir nous s'aimer les uns les autres en reconnaissant chez l'autre son besoin et en essayant d'y répondre si c'est dans nos cordes. Ensuite, est-ce que vous vous souvenez de quelque chose ? Merci hein, pour ceux qui se souviennent. Déjà, ça me fait plaisir. Non ? Ok, bon allez, c'est parti. J'appuie sur quel bouton déjà, Didier ? Tu l'as ? Tu appuies où ? Ici ?
Donc c'est bon. Donc là, c'est bon. Tu veux le suivant ?
Ah ouais, voilà. Ok. Alors, ce qu'on s'est dit... Qui s'en souvient ? Donc, je viens de le faire, là. Et on s'est dit, voilà, dans tout ça, quelque part, dans le fait... La première chose, c'était, c'est important de connaître qui est Dieu. Et parce que Satan va toujours faire en sorte qu'on oublie qui il est, par les difficultés, par les pensées, par, on sait très bien tout ça. Et Dieu est... Amour ! Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour, ça ne doit jamais quitter nos pensées. Ok, à partir du moment où on sait que Dieu est amour, c'est la base, c'est le roc sur lequel on va s'installer, et quel que soit ce qui va arriver dans nos vies, on va toujours revenir à ce roc en se disant, non, Dieu n'est pas méchant, Dieu ne veut pas que je souffre comme ça, Dieu est amour. Ok. Et du coup, c'est bien de dire que Dieu est amour, mais il faut bien qu'on l'expérimente. Si on n'expérimente pas son amour, bah on va dire Dieu est amour, ça sera quelque chose de théorique, hein, d'intelligent, mais ça sera jamais un amour de cœur. Et dans tout cela, j'ai fini par mon message par vous dire que pour que l'on puisse se sentir aimé, pour que l'on puisse expérimenter dans notre chair, dans notre intelligence et dans notre esprit que Dieu est amour, il faut alors qu'au sein de l'Église, nous soyons accompagnés. Que l'accompagnement psychologique, spirituel des personnes, relié à la pyramide de Maslow, c'est très important. Et il y a, vous allez voir, un lien très très étroit entre l'accompagnement des personnes dans leurs besoins et le chemin vers la sainteté. Les deux choses vont ensemble et je vais vous montrer pourquoi. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du premier tiret, l'accompagnement psychologique spirituel. Et si j'ai le temps, si je vois que je vous assaille pas trop avec, avec la connaissance, je vous parlerai de la sainteté. Mais peut-être que je laisserai la sainteté pour le mois prochain. La deuxième chose qui est essentielle, c'est qu'il faut que l'Église sache gérer les conflits. Parce qu'il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. L'offense existe. L'offense dans l'Église existe. C'est comme ça. Donc, comment on fait ? Mais il y a, Jésus donne des outils pour pouvoir surpasser ces offenses et pour pouvoir gérer ces conflits. Savoir trancher, c'est quoi le pardon, les sources de conflits, ça sera un autre sujet de message. Enfin, l'amour, comment on se sent aimé ? Bah, c'est si, on va dire, vous vous aimez les uns les autres, c'est bien. Ok. Mais comment ? Comment, clairement ? Concrètement dans nos vies, est-ce qu'on se sent vraiment aimé par son frère, par sa sœur ? Est-ce que tu te sens aimé par moi, Sylvie ? Ah, ça voilà. Ben oui, voilà. Mais dans cet apprentissage, est-ce qu'on peut ressentir l'amour ? Et des réponses claires à donner à la société. Donc voilà, ça c'était l'ouverture. Donc là, on va aller... Ça c'est un résumé du... Vraiment très concis. Du prêche du mois dernier. Alors on va entrer dans quelque chose de costaud aujourd'hui. L'accompagnement physiologique, psychologique et spirituel. C'est quoi l'accompagnement ? La définition qu'on peut trouver sur Internet, qu'on peut trouver dans le Larousse. La définition, c'est se joindre à quelqu'un pour aller là où il va en même temps que lui. Ok ? Aller, se joindre à quelqu'un. Donc c'est concret, hein ? C'est bien. Viens. Voilà, viens. C'est concret. C'est, dans la vie, on le sent. On sent qu'il y a quelqu'un qui est là à côté de nous pour aller là où je vais. Alors la question que j'ai à vous poser, c'est est-ce que vous avez la sensation, chacun d'entre vous, que vous avez quelqu'un à côté de vous qui vous accompagne et qui va là où vous allez ? Alors ça, c'est la définition du Larousse. Mais est-ce que cette définition, elle est biblique ? Est-ce qu'on peut la retrouver dans la Bible ? Ben oui. En Matthieu 28, c'est la fin de l'évangile. On lit, « Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ce passage est très important parce que c'est ce que Jésus nous demande. Il a demandé aux apôtres et dans la transmission apostolique jusqu'à nous. Et vous voyez que il y a un enchaînement des choses. On va dans les nations. On dit la bonne nouvelle. On n'a pas peur, on y va. Il y aura une demande de baptême. On baptise. Mais est-ce qu'après c'est tout ? Non, 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 non. Est-ce qu'on laisse tomber les gens comme ça ? On les baptise et puis après c'est bon, débrouille-toi. Le Saint-Esprit va t'enseigner tout seul. Est-ce que Jésus a dit ça ? Non, non, non. Il a dit... enseigner à mettre en pratique, enseigner à faire en sorte que mes croyants deviennent des disciples et qu'ils fassent ce que je vous ai dit de faire. Ok ? Donc faire, c'est concret, c'est dans l'action, c'est les paroles et les actes. Et ça, ce n'est possible que comment ? Parce que imaginez-vous que Jésus dit ça aux apôtres, les apôtres, ils... Est-ce qu'on va y arriver ? Est-ce qu'on est capable ? Eh bien oui, pourquoi ? Parce que moi, je suis avec vous. Parce que moi, je vous accompagne. Donc, il est possible de mettre en pratique ce que le Seigneur nous demande parce qu'on se sent accompagné. On se sent accompagné par nos frères et sœurs et on se sent accompagné par Jésus. Mais ça, c'est une vérité. Nous sommes accompagnés par Jésus. Par contre, si je vous pose la question ici, qui est accompagné, quelle que soit la forme, régulièrement, par un frère ou une sœur d'église ? Vous pouvez lever la main. Régulièrement, c'est au moins une fois tous les deux mois. Ok, c'est bien. Plus, Seigneur. On continue. Allez, hop. Alors, est-ce que c'est le rôle de l'Église d'accompagner ? Ben oui. Donc, Matthieu 28, on appelle ce passage la grande mission. C'est la mission de tout le monde ici. De tout le monde. De toi. De toi, de toi, de toi, de toi. De tout le monde. Alors, allez. Voilà. Alors, il y a d'autres passages dans l'Évangile qui parlent de cela. Ce n'est pas que dans Matthieu 28. En Philippiens 2, 4, que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Dans l'accompagnement, si on décide d'accompagner quelqu'un, on va chercher à la croissance de l'autre. On ne va pas regarder nous. Est-ce que mon accompagnement me fait du bien ? Non, 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 non. On accompagne l'autre pour chercher à le faire grandir. Donc on s'oublie, quelque part. Ok, après, hop. En Galates 6,2. Alors Galates, c'est... voilà. Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Alors, ça c'est hyper important. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore aujourd'hui quelque part une sorte de tension entre être encore dans la loi et sortir de la loi pour être dans l'amour en action. Il y a une sorte de tension encore, où quelque part, on ne sait pas si on est encore sous la loi ou si on doit juste s'aimer. Et j'ai vu cela dans mon expérience personnelle. J'ai croisé nombre de personnes qui, quelque part, aimaient parce qu'ils étaient obligés. Il n'y a pas quelque chose qui est bizarre dans ce que je viens de dire ? Est-ce que Dieu veut qu'on aime parce qu'on est obligé ?
Parce qu'il est marqué dans la Bible. Alors on le fait. Sinon Dieu va tomber sur toi.
Il n'y a pas un problème dans ce que je viens de dire. Il y a un problème. Donc, il y a une tension comme ça entre la loi et ce que je dois faire. Parfois, ça tiraille dans nos cœurs. Ok. Donc, dans Galates, il portait les fardeaux les uns des autres. C'est-à-dire que si je porte ton fardeau, David, à ce moment-là, je fais la volonté de Dieu. En Romains 12,10, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Alors moi, ça m'a fait rire parce que tout de suite, j'avais une image de dire, par exemple, il y a Christine à côté de moi, puis je lui dis, tu sais, Christine, je t'aime. Et Christine dit, non, moi, je t'aime plus. Ah non, 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 regarde. La dernière fois, je t'ai lavé tes chaussettes et tout. Je t'aime plus que toi. Non, plus moi. Non, plus, non, plus, non, plus, non, plus. Et je me dis, est-ce que c'est vraiment ça, la définition ? Et alors, je suis allée chercher. Quand on veut vraiment une définition, on va voir le grec. Voilà. Et rivaliser, c'est timé en grec. Et ça veut dire une valeur par laquelle un prix est fixé, du prix lui-même, prix payé ou reçu. Ça veut dire redonner ce qu'on a reçu. Dans mon expérience, j'ai été beaucoup accompagnée. Depuis mes 16 ans, j'ai fait l'expérimentation d'un accompagnement fraternel puissant. Il y a eu une petite pause pendant mes années étudiantes. Et puis après, à mes 21-22 ans, ça a recommencé cet accompagnement. Et c'est dans cet accompagnement que j'ai vraiment pu m'épanouir, vraiment. Dans cette relation intime avec Dieu, mais aussi avec une sœur ou un frère qui m'accompagnait et qui m'encourageait, qui m'édifiait énormément. Et l'accompagnement des deux, ça a fait des prodiges dans ma vie. Merci Seigneur. Donc, mais quelque part, est-ce que je peux donner ce que je n'ai pas reçu ? On sait très bien que les enfants qui ont souffert d'abandon, c'est difficile pour eux de redonner ce qu'ils n'ont pas reçu. C'est pareil dans l'Église. Mais oui, il y a des miracles. Alors, vas-y, explique-moi pourquoi tu n'es pas d'accord. Oui, et tu as totalement raison. Non, c'est pas automatique. C'est vrai, tu as raison. Je vais continuer, parce que sinon, si je m'arrête tous les deux secondes, je vais pas y arriver. C'est pas automatique. Et d'ailleurs, tu as en face de toi quelqu'un qui ne reproduit exactement le contraire de ce qu'il a reçu. Donc, ce que tu dis est vrai. Mais malheureusement, parfois, voilà. En tout cas, il est sûr à 100% qu'on peut redonner ce que on en a reçu. C'est plus facile, on va dire. C'est plus facile de redonner quelque chose qu'on a eu plutôt qu'un manque. Mais il y en a qui savent le faire. En Galates 6,10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et en particulier envers nos proches dans la foi. Ça veut dire que quelque part, il faut saisir n'importe quelle occasion pour aimer les gens autour de nous. Mais d'abord, Ça commence ici, dans cette église. Entre nous. Alors, je sais, c'est des belles paroles. Parfois, les offenses et tout ça, ça nous empêche de le faire. Mais ça sera la fois d'après. Proverbe 21:13. Celui qui ferme son oreille au cri du plus faible criera lui aussi et il n'aura pas de réponse. Ben oui, là on est plus dans... À un moment donné, il y a des gens qui souffrent. Il faut l'entendre. On ne peut pas fermer ses oreilles en disant non mais... Ok, alors on continue. Ça va pour l'instant ? Alors, forcément. Ben oui, parce que ça, c'est le plus important. J'espère que maintenant, vous êtes convaincus quelque part qu'il faut s'accompagner les uns les autres et que c'est quelque chose à mettre en place. Mais comment ? Et la première chose qu'il faut regarder, c'est vous regarder comment Jésus faisait. Alors, comment il faisait ? D'abord, il faisait de l'accompagnement individuel. On voit avec la Samaritaine, avec Zachée, avec Nicodème, avec Pierre, avec Jean. En fait, j'aurais pu prendre plein de passages de la Bible, mais j'aurais pas assez d'une demi-heure pour vous montrer. Mais il se retrouvait régulièrement, seul à seul, avec des personnes. Parfois, c'était, comme on dit, en one-shot. Le one-shot suffisait et hop, c'était parti. Parfois, il fallait plusieurs moments. Et parfois, il fallait vraiment beaucoup de temps. Pierre, il fallait beaucoup de temps. Pierre avait besoin de parler avec Jésus. Jean aussi. Ensuite, en petit groupe, souvent, dans tous les évangiles, vous voyez, et il prie les disciples à part, souvent après des paraboles. Il donne des paraboles à toute la foule. Souvent, la moitié de la foule ne comprend pas. Où ils comprennent. Et après, il prend quand même les disciples à part pour les enseigner. Là, c'est de l'accompagnement en petits groupes. Ensuite, la foule. Mais oui. Waouh. C'est ce que Jésus faisait. Il y avait des moments où il y avait une foule. Et il enseignait, mais il savait pertinemment que l'enseignement qu'il allait donner n'allait pas être reçu par tout le monde. Tout le monde n'était pas en capacité d'entendre et de comprendre ce qu'il était en train de dire. C'est pour ça qu'à chaque fois, il disait que celui qui entend comprenne. Mais c'est à ce moment-là où il lance le filet. Il appelle au réveil. Tout le monde a accès à ça. Voilà les trois manières dont Jésus accompagnait les personnes. Il lui demandait du temps, hein. Il a fait que ça pendant 3 ans. Alors aujourd'hui, concrètement, ça demande une organisation, concrètement dans nos églises, dans cette petite église. Ça demande une organisation. Jésus a décidé les 3 dernières années de sa vie de consacrer son temps à accompagner les gens. Alors, l'accompagnement, ici, aujourd'hui, il doit être fait par qui ? On a tous des talents. Mais on n'a pas tous les mêmes talents. Donc, quelque part, il faut que ça brûle dans le cœur de chacun. Si ça brûle dans ton cœur à toi d'accompagner les gens, alors, il faut voir pour mettre cela en route. Peut-être qu'il faut qu'aille te former. Peut-être que tu as besoin d'aller te former en psychologie, peut-être que tu as besoin de te former plus dans la spiritualité, dans la théologie. Ok ? Mais tout le monde n'est pas appelé à accompagner. Ça doit brûler dans le cœur, c'est comme un appel. Toi, tu vas être appelé à faire la louange, voilà. C'est ton appel. Tu ne seras pas forcément appelé à accompagner. Alors comment ? Si on reproduit exactement ce que Jésus fait, il y a la prédication, comme là. Je pense que c'est bon. Il y a de la prédication tous les dimanches. C'est bon. Des parcours d'enseignement et de vie fraternelle. Là où, pas le dimanche, mais à un autre moment, on met en place des parcours d'enseignement. J'ai déjà entendu parler que vous avez fait Alpha. Voilà, c'est ce genre de parcours-là qui va pouvoir aller plus profondément et qui va être source d'action. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Jésus prenait les disciples, juste les disciples, ça engendrait une action. Ils étaient fortifiés pour pouvoir aller répandre la bonne nouvelle. Et enfin, l'accompagnement individuel. C'est-à-dire, ici, par exemple, on devrait éventuellement, c'est une proposition, hein, savoir qui peut accompagner dans l'individualité. Bah tiens, il y a une personne qui arrive ici, nouvelle dans l'église, on fait connaissance avec, et on sait, elle sait que si elle veut être accompagnée, eh ben il y a quelqu'un. Elle peut même choisir si elle veut. Moi, tu vois, là, il y a Christine, là, il y a Rémi, là, il y a... Tu fais quand ? En fonction de ton feeling. Mais elle va être prise en charge. Elle va sentir que là où son cœur aspire à aller, eh ben, elle n'est pas toute seule. Il y a quelqu'un à côté d'elle pour dire, allez, on va y aller ensemble, on va discerner ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. On va discerner tes pensées, on va t'aider, on va comprendre. Alors ça, par contre, ça demande un contrat moral, bien précis. Parce qu'on sait qu'il y a certaines personnes qui peuvent être épuisantes. Épuisantes. Et donc, il faut, dans cet accompagnement-là, il faut que l'accompagnant soit aussi protégé. Et que l'accompagné soit aussi protégé. Que le cadre soit tellement clair que quelque part, ça va couler facilement. Alors ce contrat moral et organisationnel, c'est le respect mutuel. L'accompagné s'engage à respecter l'accompagnant et l'accompagnant s'engage à respecter l'accompagné. La confidentialité, la confiance totale. C'est-à-dire que, quelque part, l'accompagné doit être sûr à 100% qu'il peut tout dire, même les trucs où il n'est vraiment pas fier. L'arrêt possible à tout moment. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut dire bah, je pense que je vais arrêter, j'ai plus forcément besoin. Et qu'il y ait cette liberté sans que l'accompagnant se sente offensé. Et le rythme des rencontres. Voilà, bon, on va se voir tous les combien. Tu as besoin de combien ? Mais alors, quel est le but ? Quel est le but de cet accompagnement ? Que chacun puisse devenir le sel de la terre. On est tous appelés à resplendir. Tous. Mais parfois, on a du mal. Et c'est normal. Mais grâce à l'accompagnement, ça repart. Le souffle. On chante souvent « Un souffle nouveau, Seigneur, un souffle nouveau !» Mais le souffle nouveau, il vient aussi par nos relations entre nous. Alors, hein? Ah, c'est bon. Du coup, le fait que l'on puisse quelque part devenir le sel de la terre, eh ben, on se met en mouvement et on commence à servir l'Église. On commence à prendre sa place dans le corps de l'Église. Et puis tout le monde prend sa charge. Chacun prend sa croix. Du coup, c'est plus l'histoire que du pasteur ou que des anciens de porter l'Église. Et à la fin, les anciens, ben, ils n'en peuvent plus. Ils sont fatigués. Et le pasteur, il n'en peut plus. Il est fatigué parce qu'il doit tout faire tout seul. Mais non, c'est pas ça que Dieu a dit. Dieu a dit, voilà, Moïse, tu vas faire tout seul. Ça a été difficile pour Moïse. Mais non, c'est le corps qui se met en route. Et c'est l'expérience d'une confiance mutuelle et d'un accompagnement réciproque. L'accompagnement va pouvoir aussi faire en sorte d'avoir une épaule dans la détresse, un vis-à-vis qui aide à voir clair sur ma situation. On m'a toujours répété, depuis que je suis chrétienne, un chrétien seul est un chrétien en danger. On m'a toujours répété ça. Et donc, ça permet de prévenir les querelles. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on a été offensé par quelqu'un, au lieu d'aller voir, du dire « Mais tu m'as fait mal !» Quand tu m'as dit ça, t'es bête ou quoi? Mais tu ne mets pas les formes ou quoi? Tu crois quoi que ça va faire quoi chez moi, dans mon cœur? Ça va me bousiller, hein? Ah bah oui, bah c'est vrai. Alors avant d'aller voir la personne, tu vas dire, parler à la personne qui t'accompagne, dis, bah franchement, là, ça commence à m'énerver, là. Là, ça commence à... Tu vois, c'est... Qu'est-ce que je dois faire? Et là, l'accompagnant entend, quelque part, cette frustration, ou cette offense, ou cet énervement, ou cet agacement, qui doit être déposé. C'est normal d'être énervé de temps en temps. Lorsque Jésus disait à ses disciples, « Mais jusqu'à quand je vais vous supporter ?» Vous croyez qu'il disait, « Mais jusqu'à quand je vais vous supporter ?» Non, non, il était énervé. Donc, quelque part, j'ai envie de vous enlever cette culpabilité de dire, « Oh, mais je m'énerve. Oh, mais merci. Seigneur, je ne suis pas à la hauteur. » Ben oui, c'est vrai qu'on n'est pas à la hauteur. Hein. Qu'on puisse se le dire. À un moment donné, on n'est pas à la hauteur. Et on a besoin d'aide. Et c'est normal. Tout à fait normal. Et vous voyez là, quelque part, le lien avec la sainteté? Vas-y, bah si c'est normal, alors pourquoi la sainteté? Alors je ne comprends pas. C'est un chemin, la sainteté. Embrasser notre identité de saint. Grâce à cet accompagnement-là, lorsqu'on va pouvoir déposer nos dépressions, nos trucs, tout ce qui n'est pas bon là, ce qui va empêcher l'Église d'avancer, on va pouvoir, ça y est, entrer dans le chemin de la sainteté. Est-ce que vous me suivez? Ça va, tout va bien? Bon, je mets un peu le doigt là où ça fait mal, hein. C'est normal. J'espère que vous m'en voulez pas. Alors, du coup, j'y vais. C'est quoi la sainteté? Il me reste encore un peu de temps, Rémi, je peux y aller ou pas? Je pense que je peux y aller. Ok. La définition. La définition de sainteté, en grec, c'est agiasmos, agios, enfin avec toutes les déclinaisons, adjectifs, noms, verbes. Ça veut dire consécration, purification, l'effet de la consécration, sanctification de cœur et de vie. Donc c'est un beau programme. C'est pas une petite chose, la sainteté. Ok. Donc cette purification, on va voir, mais c'est quoi, purifie quoi? Et cette consécration, c'est le fait de se sentir à part. On est mis à part. On est avec Dieu et on sent quand même quelque chose de différent avec le monde qui nous entoure, comme une mise à part. Ensuite, en hébreu, donc c'est toujours bien d'avoir aussi l'hébreu, d'avoir l'Ancien Testament. Dans l'hébreu, c'est kadosh. Je ne sais pas si je le dis bien. Ce qui sort du profane, ce qui s'élève au-dessus de l'ordinaire, tout ce qui est sacré, saint, mis à part. Et là, j'ai envie de vous poser la question. Voilà, nous, je pense qu'on a bien, les personnes qui sont chrétiennes depuis un certain temps, on a bien conscience que la sainteté, c'est quelque chose de beau, de haut, peut-être parfois de difficile à atteindre. Mais les gens du monde, la sainteté, ils s'en foutent. Au contraire, c'est comme un poids sur les épaules. Hein? Et puis même, mais en quoi je dois venir saint? Mais moi, je suis docteur dans la vie, je n'ai pas besoin, j'aide les gens, je suis déjà saint. Moi, je fais le bien dans ma vie. Bah, en quoi je suis pas saint? L'orgueil. Pas compris qui était Dieu. Pas compris à quel point il est beau, à quel point il est grand. À quel point il est grand, à quel point il est pur. N'est pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Monsieur le docteur, vous n'avez pas compris. Alors, du coup, comment entrer dans cette sainteté qui nous semble quand même comme inaccessible, comme impossible? Alors, un peu d'histoire. Un peu d'histoire selon les Juifs. C'était par l'application de la loi de Moïse. Les musulmans aussi sont là-dedans, l'application de la loi, de la charia. C'est par l'application de la loi que nous allons atteindre cette sainteté. Et c'est ainsi qu'on va faire la volonté de Dieu, en appliquant la loi. Il n'y a pas à réfléchir. Si Dieu te dit, il faut faire tes ablutions, tu fais tes ablutions, point barre. Si Dieu te dit, fais l'aumône et donne aux pauvres, tu donnes aux pauvres, point barre. Il n'y a pas à réfléchir, c'est simple. Chez les chrétiens, c'est plus compliqué. Plus dur. Jésus, lorsqu'il arrive, il a une position qui nous semble diverger, un truc qui change. Pourquoi ? Parce que les Juifs, donc en appliquant la loi de Moïse, les pharisiens, les sadducéens, les esséniens, toutes ces personnes qui avaient un cœur pour Dieu énorme, quelque part finissaient par se séparer du monde. Une mise à l'écart nette, tranchée. Oh non, je ne vais certainement pas aller manger chez un lépreux. Ben, il est impur. Ah ben non, je ne vais pas aller manger chez la prostituée à Wavrin. Non, impur. Ah non, 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 mais je ne vais pas aller manger avec les homosexuels du thé. Oh non, impur. Ah ben non, je ne vais pas aller manger avec les gens qui font la maison du bonheur, là, à Wavrin. Non, 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 c'est impur. Mais Jésus, lui, il accepte une prostituée, lui touche les pieds. En plus, il touche le corps. Jésus, lui, il va accepter d'aller manger avec les publicains et les pécheurs. Lui, il va pardonner les péchés. Non, mais il est fou, lui. Mais qui il est pour se permettre ces choses-là? Le nombre de choses qui... Et c'était normal pour les Juifs d'être choqués par le comportement de Jésus. Mais c'est parce qu'il voulait dire qui il était. Vous êtes en train d'attendre le Messie. Vous allez attendre combien de temps? Je ne vais pas dire que je suis le Messie. Je vais vous le montrer. En acte. Je ne vais pas vous dire que je suis chrétien. Je vais vous le montrer. En acte. Ok. Donc, il semble qu'il y ait du nouveau dans l'accès à la sainteté et au salut. Parce que sainteté et salut, quelque part aussi, c'est un grand débat. Si on est, il y en a qui disent, non, Jésus nous donne le salut, c'est bon. À partir du moment où tu as accepté Jésus, c'est bon. Il y en a qui disent, mais non, le salut, on peut le perdre, si tu n'es pas assez saint. Alors ça, c'est un autre débat. Tu ne veux pas rentrer dedans. Jésus appelle à la sainteté de cœur pur. Ça veut dire qu'il va plus loin que la loi de Moïse. La circoncision de cœur, et non juste d'application de la loi. Il va plus loin, c'est de nos cœurs que sort le bon ou le mauvais. Jésus ne remet pas en cause la loi. Hein. Pas une seule fois, il remet en cause la loi. Mais il vient l'accomplir. C'est bon, elle est accomplie. Jésus n'a pas péché. Hein. Pas une seule fois. Il a fait exactement ce que la loi demandait. Parce que c'était le seul à pouvoir le faire. Donc, on va prendre un petit passage dans Matthieu 19. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Oh, alors là, les apôtres, ils entendent ça. Ils se disent, quand les disciples entendirent cela, ils furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé ?» Parce que moi, je sais pas, Seigneur Jésus, j'ai tout lâché pour toi, mais je t'avoue que si tu veux bien me donner un petit salaire tous les mois, ben je dis pas non. Oui. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Il y a là, dans ce passage, une vérité. Si tu crois que tu peux te sauver toi-même, tu te trompes. Si tu crois que tu es au standing de Dieu, tu te trompes. Mais tu sais quoi? Dieu t'en veut pas. Parce que depuis Adam et Ève, il le sait en fait, que tu seras jamais à la hauteur. Donc il va le faire à ta place. Parce que ce qui est impossible à l'homme, ben, c'est possible à Dieu. Tu sais quoi? Tu t'embrouilles avec ton frère et ta sœur dans l'église. Ben, Dieu le sait. Il n'est pas étonné. Mais tu sais quoi? C'est pas grave, Dieu va t'aider. À travers un autre frère. Ou une autre sœur. Et on va surmonter tout ça ensemble. Alors, bilan de Dieu sur la sainteté. Mais l'homme est incapable d'être saint par ses propres moyens. Il faut racheter notre incapacité. Merci Jésus. Merci Seigneur. Par la croix. Amen. Amen. Bon complément. Merci Thérèse. Alors la sainteté aujourd'hui. La sainteté aujourd'hui. Bah déjà, nous sommes déclarés justes. Ouf. Ouf. Ouf, hein. Vraiment, hein. Ouf. Et l'accepter, c'est faire preuve d'humilité. Eh bien oui, parce que il y en a encore beaucoup qui croient qu'ils n'ont pas besoin de Dieu, qu'ils n'ont pas besoin de la croix. Il y a encore beaucoup de monde qui croient qu'on n'a pas besoin de la croix, qu'on n'a pas besoin d'un homme venu sur terre pour nous racheter quelque part de notre incapacité à savoir aimer les autres, à savoir aimer Dieu. Il y a beaucoup de monde qui croient qu'ils peuvent acheter leur salut en faisant des actions, en faisant ceci, en faisant cela. C'est pas qu'il ne faut pas faire les actions. C'est que quelque part, si tu analyses toutes les pensées qui traversent ta tête tout le long de la journée, bah, y en a quelques-unes. C'est pas terrible. Mais c'est comme ça, on le sait. La culpabilité n'est pas la solution. La croix est la solution. Romains 5 et 6. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est mort. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. Alors, j'entends tout de suite mes amis musulmans qui me crient « C'est trop facile ton truc. » C'est carrément trop facile, hein. Alors du coup, ben, tu dis que tu crois en Jésus, et puis après, tu vas aller parler sur le dos de ta voisine. Et tout va bien. C'est pas grave, Jésus t'a racheté par son sang. Mmh. Ah bah écoute, c'est pas si simple que ça. Parce que nous les chrétiens, on essaye de mettre en pratique la parole. Et elle dit aussi, quoi donc ? Allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas sous la loi mais sous la grâce ? Certainement pas. On a doublement plus conscience de la sainteté, du chemin de la sainteté à atteindre. Et parfois, ça nous met un poids de culpabilité énorme. Alors pour ça, il faut du coup se mettre au courant et être alerte. Mais c'est quoi le péché alors ? Comment on va tomber dans le péché ? Mais c'est clair, c'est facile, c'est marqué. En Galates 5, 19, les œuvres de la nature humaine sont évidentes. J'ai mis en gros, en rouge, évidentes. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce sont l'adultère. L'adultère, c'est le fait de tromper sa femme ou de tromper son mari. L'immoralité sexuelle. Je ne vais pas vous faire une définition. Je pense qu'il y a assez d'imagination. L'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, hein, aller voir les marabouts et tout ça, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes. Ah ça, les sectes. L'envie, les meurtres, l'ivrognerie. Les excès de table et les choses semblables. Alors, le mot évident, c'est phanéros. Ça veut dire apparent. C'est-à-dire que ça se voit. C'est-à-dire que c'est évident, ça se voit. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que j'ai croisé tellement de frères et de sœurs qui se martelaient en disant « Mais est-ce que j'ai le droit de faire ça ? Mais est-ce que j'ai le droit de faire ça ? Mais est-ce que si je fais ça, je suis dans la volonté du Seigneur ?» Et ils se prennent la tête. Mais si tu es dans le péché, mon frère, ma sœur, ça se voit. C'est clair, c'est net. Ok ? Donc, arrêtons de se prendre la tête. Si tu regardes la pornographie, ah oui, 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 il y a un petit souci. C'est évident, c'est clair, c'est net. Si tu commences à monter une église et que tu demandes de l'argent aux gens et puis que quelque part, tu t'en fous, mets un peu les fouilles, oui, oui, un petit souci, oui, oui, il y a un petit problème. Oui, oui, un petit péché là, on va t'aider. Si quelque part tu sors, que tu bois un verre de vin, mais que tu ne sais pas t'empêcher d'aller au deuxième, au troisième, au quatrième, au cinquième, au sixième, qui fait que tu vomis dans le caniveau, ou dans ta chambre parce que faut, ou dans ta salle de bain parce qu'il ne faudrait pas que les gens le voient, ben oui, tu as un petit souci. On va t'aider. Mais si tu bois un verre au resto, ben c'est pas grave. Ben non, c'est pas de l'ivrognerie. Si tu regardes une série Netflix bon, qui est un peu chaude et qui c'est pam 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 nanana, nanana, et que toi tu prends plaisir à ça, tu fais ah ouais ouais, parce que tu es sûr de bien te nourrir. Mais si tu regardes une série Netflix qui est belle, qui est jolie, il n'y a pas de problème. Donc est-ce que tu peux aller sur Netflix? Ben oui. Oui. Tant que tu ne regardes pas un film pornographique. Est-ce que tu peux regarder un Walt Disney? Ben oui. Tant que tu as conscience que peut-être la Reine des Neiges, là, elle fait peut-être appel à la magie, et que la magie, ça peut te donner envie toi-même de faire de la magie. Ne tombe pas dans le piège. Ah ouais, ça va loin, mais j'en ai rencontré des gens qui se posaient des questions comme ça et qui refusaient que leur enfant regardait Walt Disney parce que Walt Disney, c'est le diable. Et c'est pas dans l'église catholique que je les ai rencontrés, ces gens-là. Alors, les déviances en lien avec la sainteté. Peur de mal faire. Être découragé. Oh là là, mais non, Dieu veut pas qu'on soit découragé. La première chose qui fait qu'on est découragé, c'est qu'on allie sainteté et crainte de Dieu. Mais c'est quoi la crainte de Dieu? Une fois, il y a une amie, en fait, j'étais en train de prier, et puis je disais mon désarroi à Dieu. Mais vraiment, et je criais à l'injustice, je disais, mais je comprends pas. Et puis je disais à Dieu, mais si t'es amour, alors pourquoi il y a ça? Et j'étais juste sincère avec lui. Et elle m'a dit, Ève, la crainte de Dieu? Ben, j'ai pas quoi la crainte de Dieu. Ben, quand tu parles comme ça, tu ne crains pas Dieu. Et là, j'étais plus d'accord. Mais comme c'était ma sœur, ben, je me dis, elle a peut-être raison. Et là, j'ai commencé à avoir peur dans mon cœur. Moi qui aime tellement Dieu, je me dis, oh, je lui fais mal à Dieu. Et là, j'ai une culpabilité qui est venue dans mon cœur. Mais, dans la douceur de Dieu, quelques temps après, je tombe sur des versets de la Bible qui disent, c'est quoi la crainte de Dieu ? Proverbe 8:13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Dieu ne veut pas qu'on ait peur de lui. Il veut qu'on l'aime. Il n'a pas dit dans sa parole, je veux que tu me crains. Il a dit, je veux que tu m'aimes. Et que de cet amour va sortir cette crainte et le fait que tu ne veux pas donner part au mal qui réside dans ce monde. Et tu diras non, je vais prendre ma responsabilité et je vais dire non au mal. C'est ça la crainte de l'Éternel. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Ah mince, il y avait celle-là aussi, bien. Psaume 27:1. On peut pas revenir en arrière? Si. Voilà. Psaume 27:1. L'Éternel est ma lumière. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est ma lumière. De qui aurais-je crainte? C'est une bonne nouvelle. Dieu nous aime. Bien. Donc la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Alors, ouais. Tu peux appuyer? Ok. Et le deuxième risque, et après ça sera fini, c'est de tomber dans le légalisme. Ouais, c'est normal, il faut que tu appuies sur entrée. Alors, je suis désolée, c'est tout petit, hein. C'est trop petit. Je vais vous le lire. Galates 3. Ainsi, la loi a été donnée, a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Afin que nous fussions justifiés par la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Là, il y a quelque chose de très, très, très important. Je ne pense pas que ça soit le cas dans cette église, mais j'ai rencontré tellement de chrétiens qui prenaient la loi de Moïse encore comme le pédagogue. Et il y a quelque chose de dangereux. Cette loi, elle a été accomplie. Et nous devons vivre sous la grâce. C'est l'appel de Dieu. Et tomber dans le légalisme, c'est de faire de l'évangile une nouvelle loi, mais une loi parce que je dois appliquer et non pas parce que mon cœur a envie de le faire. Et il y a une grande différence entre les deux. Donc nous ne sommes plus sur ce pédagogue. Nous ne sommes plus sous le poids de la loi mosaïque, qui était lourde à vivre. Parce que mes frères et sœurs, si c'est ça, on arrête de manger du porc. Hein. On arrête de manger des crevettes. On ne boit plus rien du tout d'alcool. On fait... Mais enfin, je ne vais pas vous faire la liste. Alors, allez, voilà. Il nous a aussi rendu capable d'être serviteurs d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Ça, c'est hyper important. La lettre tue. C'est-à-dire que lorsque tu lis quelque chose, tu dis « Oh, mince, je fais pas ça, il y a de la culpabilité. » Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon, hein. Par contre, quand tu lis et que l'Esprit Saint vient te convaincre de te dire « Oh, là, c'est pas très bon. Seigneur, aide-moi, s'il te plaît. Je sais que ça, je pourrais faire mieux. Aide-moi, mon Dieu. » Et il n'y a pas de culpabilité. Et ça, c'est bon. Oui, bien sûr. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Moi, Paul, je vous le dis, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de mettre en pratique la loi tout entière. Moi, je me suis fait circoncire, mais le reste de la loi, ben, je ne le prends pas. Ben non. Soit tu prends toute la loi, soit tu ne la prends pas. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Nous, c'est de la foi et par l'Esprit que nous attendons la justice espérée. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. Tu veux te faire circoncire ? Circoncis-toi. Tu veux faire circoncire ton fils ? Vas-y. Mais ce n'est pas ça qui va te sauver. Ce n'est pas ça. C'est ta foi qui va te pousser à aimer. Donc le fruit du légalisme, et ça vous pouvez le lire dans Galates 5 et 7, c'est que ça va stopper net ta course. Ça va te... Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que ceci... Tu vas te poser 36 000 questions qui fait que tu ne vas plus être dans la marche, dans la foi. Ça va stopper net. Ah mais est-ce que je fais bien d'acheter ce bâtiment-là pour l'église? Parce que c'est peut-être pas exactement ce que Dieu veut. Attends. C'est bon de se poser la question de ce que Dieu veut. C'est essentiel. Mais il ne faut pas que cette question t'empêche de marcher dans la foi. Attention. Et donc ça, le légalisme, ce n'est pas de la sainteté. Hein. On va finir. Si ça avance. Hop. Comment se prévenir du légalisme? Alors, c'est facile, il y a deux choses. On ne va pas forcément le lire, mais la fin, la règle d'or, tu aimeras ton prochain comme toi-même. À part, tu peux te poser cette question-là. Est-ce que quand je fais ça, j'aime? Est-ce que quand je fais ça, ça va bénir l'autre? À partir de ce moment-là, oui, c'est bon. Mais si tu commences à dire, quand je fais ça, ah, j'obéis à Dieu, mais bon, tant pis, hein? Bah, l'amour, il n'y a que l'amour. Ben oui, il n'y a que l'amour, oui. Donc, si tu fais quelque chose qui va à l'encontre de ton frère ou ta sœur, parce que tu veux obéir à Dieu, légalisme. Petit problème. Donc l'amour, le filtre de l'amour. Et importance de la bonne interprétation de la parole. Voilà, alors pour terminer, j'avais envie de vous donner un petit exercice. Ok ? Qu'est-ce que vous comprenez de Jacques 4, 17 ? On va demander à Jacques. Si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. Et je vous pose la question, comment interprétez-vous ce verset? Allez-y, faites pas les timides. C'est la fin.
Il n'obéit pas à Dieu.
Il n'obéit pas à Dieu dans quelles circonstances? Parce qu'on a, on a des talents, mais on n'est pas en pratique.
Voilà, mais pas en pratique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La conscience, j'aime bien, je retiens. Alors on peut aussi interpréter, si quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. Ben, c'est clair, hein. Voilà, hein. Si tu as une personne en face de toi qui est dans la rue, qui fait la manche et que tu ne donnes pas une pièce, alors tu commets un péché ou tu ne commets pas un péché? T'as l'occasion de faire le bien. Ah. Bon. Et quoi? Tu peux donner un sandwich. Ou directement la bouteille de vin. Mais bon, si c'est pour faire la Sainte-Seine, il n'y a pas de souci. Hein, mais si c'est pour l'ivrognerie, bon, voilà, allez. Ok. Et une bière. C'est tout. Bon, ok, on a ça. Donc on lit la parole, puis on lit ça. Mais regardez, notre exercice, regardez, mais celui-là. Hop. Romains 7, 19, c'est Paul qui parle. Alors on a Jacques 4, 17, et après on a Paul qui dit « En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. » Bon, mais pourquoi dans la Bible il y a à la fois Jacques 4, 17 et à la fois Romains 7, 19?
Je comprends plus, Seigneur.
Est-ce que la Bible se contredit? Non. Non, 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 non. La Bible ne se contredit pas. L'histoire de la conscience, elle est importante. Ça explique un petit peu l'importance de la bonne interprétation de la parole. On ne peut pas interpréter un verset juste pour ce verset-là. Et puis le reste de la Bible, on ne le prend pas en compte. Non, on doit interpréter un verset à la lumière de l'ensemble de la parole. C'est pour ça que c'est important de connaître la parole. C'est pour ça qu'il y a des parcours d'enseignement. C'est pour ça que Jésus demande « Enseignez-leur à faire ce que je vous ai dit ». C'est pour ça qu'on doit connaître notre parole. Parce que si on prend un verset comme ça, indépendamment des autres, on peut ressentir de la culpabilité, de la condamnation, parce qu'on n'arrive pas à le mettre en œuvre. Mais lorsqu'on lit le deuxième, là, on se dit « Ah, oh, bah ça va, bah, si Paul il n'y arrivait pas. » Mais est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas faire le bien? Mais non. Ces deux choses tiennent ensemble. C'est comme si Jésus nous disait « Je sais que c'est difficile pour vous, mais efforcez-vous de donner le meilleur de vous-même. » Et c'est ça, la sainteté. Allez. Ce sera bien. Ah ouais. C'est quoi le message global des évangiles? Il n'y a plus de condamnation en Christ. Entrez dans ma vie, suivez-moi, faites de votre mieux. De votre mieux, donnez des sandwichs à la sortie de l'église, vous avez le cœur de le faire, faites-le. Ah, oh. Bah Jacques, c'est une manière de me dire stop. T'es fini, attends, c'est bientôt fini. Conclusion. Allez. Donc la sainteté, ce n'est pas une liste de choses à faire ou à ne pas faire, mais bien à s'attacher à ce qui est bon à être et à faire à l'instant T. C'est donner le meilleur de nous-mêmes avec ce que nous sommes aujourd'hui. C'est librement choisir de s'attacher au bien, à l'amour et demander pardon quand on n'y arrive pas. La sainteté, ce n'est pas chercher à être parfait. Il n'y a que Jésus qui est parfait. C'est suivre Jésus simplement et lui faire confiance à travers son esprit pour nous guider. C'est lui faire confiance. C'est y aller. Et l'accompagnement est essentiel pour apprendre à marcher en chrétien debout, libre, heureux, en marche et sain. Voilà le message que je voulais vous apporter aujourd'hui. C'est terminé. C'était un peu costaud. Et c'était très pratico-pratique. C'est une invitation à accompagner et à marcher dans la sainteté sans culpabilité. On va juste prier ensemble, une minute. Seigneur Jésus, voilà, je me suis laissée conduire par ton Saint-Esprit. Je sais que c'était costaud ce matin. Et je te prie que chaque personne puisse retenir ce qu'il y a de bon dans leur cœur, qu'ils puissent éviter le piège du légalisme, éviter le piège de la mauvaise crainte de l'Éternel, mais que tu puisses les conduire dans ton amour et à mettre en pratique l'accompagnement que tu nous as donné, que tu nous as montré, que l'on puisse se bénir les uns les autres. Et je te demande que chaque personne ici dans cette église puisse se mettre en marche dans la joie, la confiance en toi. Et qu'ainsi, lorsque d'autres personnes viendront dans cette église, nous serons prêts à les accueillir et à les accompagner comme toi, tu l'as fait. J'ai prié dans le nom de Jésus. Amen.